ce que le frère a dit dans sa prière, avoir les pensées claires. Pour toutes sortes de raisons, la fatigue et parce qu'on est, des hommes sujets à la faiblesse. Parfois même, on peut perdre le fil de nos idées. Ah, j'aime bien qu'on demande au Seigneur de nous aider à garder les idées claires pour communiquer sa parole. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous. C'est vrai que c'était une première plutôt hier, mais d'être là pour la première fois ici à Bordeaux Centre, ça me réjouit beaucoup. Vous me donnez une très belle opportunité de prêcher la parole de Dieu en France, ici dans le sud-ouest, et je l'apprécie beaucoup. Ginny, mon épouse, est à la maison avec nos deux petits-enfants. Juste avant de partir, j'ai eu le bonheur d'être grand-papa pour la deuxième fois. Alors, il est né le 1er août. Merci. Un beau petit garçon. Il avait un peu plus de deux semaines quand je suis parti. Alors, je vous avoue que je trouve difficile de voir les photos du petit grandir, là, parce que ça va vite, hein, quand c'est bébé comme ça, et puis d'être loin. Mais ça compense beaucoup d'être au service du Seigneur avec des frères et sœurs. Alors, gloire à Dieu, et je voudrais vous transmettre les salutations de Ginny et mon assemblée locale de Shawinigan, un mot autochtone amérindien qui parle de cascade d'eau, de chute. Tournez avec moi dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Nous allons lire les 11 premiers versets de ce chapitre. Je vais lire le texte, c'est dans la Bible d'Arby de Roll, n'est-ce pas, hein, Marco? Voilà, c'est un texte qu'on connaît quand même assez bien. C'est le texte de Henri Rossier de 1916, mais dans une toute nouvelle mise en page avec un texte beaucoup plus aéré. Et puis voilà, mais c'est le texte auquel on est habitué. Je lis ces versets. Ensuite, j'aimerais à nouveau prier brièvement pour soumettre au Seigneur la suite de l'exposition du passage. Mais lisons d'abord. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu bonne et agréable et parfaite. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous, de ne pas avoir une haute pensée de lui-même au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Or, ayant des dons de grâce différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi, soit le service, soyons occupés du service, soit celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement, soit celui qui exhorte, à l'exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité. Celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement. Celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez en horreur le mal. Tenez ferme au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Quant à l'activité, pas paresseux, fervent en esprit, servant le Seigneur. Quel texte! Prions brièvement. Seigneur, nous venons devant toi, dans le même esprit que nous l'avons chanté tout à l'heure et encore prié il y a quelques instants, nous venons pour t'implorer de parler, Seigneur, de parler à nos cœurs. Montre-nous, Seigneur, ce que nous devons comprendre dans ce texte, chacun de nous qui sommes ici aujourd'hui, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions ainsi. Amen.
Amen.
C'est l'objet de notre cours Biblos de cette année. C'est l'épître de Paul aux Romains. Et dans cette épître toute particulière, qui a surtout un caractère doctrinal très fort, l'apôtre Paul veut s'assurer que les chrétiens de Rome, qu'il connaît pour certains d'entre eux, mais ce n'est pas une église qu'il a fondée, vous savez, eh bien, il veut s'assurer qu'ils aient bien compris la nature et l'essence de l'Évangile de Jésus-Christ. En fait, l'Évangile, c'est la doctrine de la justice de Dieu. C'est ce qu'on pourrait appeler toute la rédemption de son plan de départ jusqu'à la fin. Et donc, l'apôtre Paul passe beaucoup de temps dans cette épître à exposer la doctrine de la justice de Dieu, soit l'Évangile de Jésus-Christ. Et ça débute avec une très mauvaise nouvelle. Les trois premiers chapitres de Romains nous disent que l'homme est perdu, que l'homme est condamné parce qu'il est pécheur. Mais la bonne nouvelle qui suit, ce sont les chapitres 4 et 5 où l'apôtre Paul montre que l'homme peut être justifié par la foi. Donc, il n'est pas abandonné dans son péché. Dieu est venu à son secours et Dieu justifie celui qui place sa foi en Jésus-Christ. Et ensuite, celui qui est justifié, il est appelé maintenant à vivre pour Dieu. Si nous avons vécu dans le péché autrefois, eh bien maintenant, étant justifiés, nous sommes appelés à vivre pour Dieu. Et ce sont les chapitres 6, 7 et 8 qui nous parlent de sanctification. Ça fait partie de la doctrine de l'Évangile. On ne pourrait pas séparer la sanctification de la justification. Ce serait un non-sens. Parce que c'est l'appel de Dieu pour ceux qu'il a justifiés. Au chapitre 9, Dieu nous permet de jeter un regard de l'autre côté du rideau, comme si nous étions dans un théâtre où on nous permettait tout à coup de monter sur scène et de tirer le rideau pour voir la mise en scène derrière, pour voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on découvre en lien avec la théologie de la justice de Dieu, de la doctrine de l'Évangile? Que Dieu a élu ceux qui lui appartiennent. Wow! C'est un coup d'œil magnifique, c'est l'élection. Ça ne dépend pas de personne ni de la volonté humaine, mais de Dieu seul. Et donc, le chapitre 9 nous plonge de l'autre côté du rideau. Mais vous savez ce qu'il faut faire après? Il faut retirer le rideau à sa place. Et on retourne dans l'application pratique de la doctrine de l'Évangile et on prie pour ceux qui sont perdus et on leur prêche l'Évangile. C'est le chapitre 10, d'une façon toute particulière. Parce que c'est là la responsabilité confiée aux croyants de l'Église. Dieu, oui, a un plan souverain, mais il l'exécute dans le contexte de la prière et de la prédication auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai pu regarder de l'autre côté du rideau, mais après, je le remets à sa place et ça appartient à Dieu, l'élection. Ça ne nous appartient pas. La seule chose qu'on doit faire avec l'élection, c'est dire « Merci Seigneur ». Rends grâce à Dieu. Pour Paul, c'était d'ailleurs un sujet de joie que de remercier Dieu pour l'élection. Mais par la suite, il faut prêcher, il faut prier pour atteindre les perdus en ayant un cœur à l'image de Christ, rempli de compassion pour les brebis perdues, pour les enfants, pour toute cette foule qui a besoin de l'Évangile. Et pour clore la partie doctrinale de son épître aux Romains, l'apôtre Paul a rédigé le chapitre 11, qui nous parle de la bénédiction que Dieu a en réserve pour ceux qui lui appartiennent, autant juifs que non-juifs. Dans le chapitre 11, quand Paul termine, il va dire à chacun, « Vous savez, la sagesse de Dieu dans la doctrine de l'Évangile, c'est qu'il a renfermé tout le monde dans sa miséricorde pour faire miséricorde à tous. » Et tout cela parce que, homme, que soit juif ou non-juif, ont été désobéissants. Alors Dieu fait miséricorde à tous. Chapitre 11 est comme le mot de la fin sur la doctrine de l'Évangile pour dire « Voici la bénédiction à venir. » Et elle passe, entre autres, par la restauration du peuple d'Israël. Et c'est terminé pour la doctrine. On entre au chapitre 12, dans la dernière partie de la lettre, où nous entrons dans ce qu'on pourrait appeler la partie pratique, l'application. Qu'est-ce que ça fait que d'être justifié? Qu'est-ce que ça fait que d'être chrétien maintenant? On est sauvé, on a été justifié, on peut vivre pour Dieu. Eh bien, l'apôtre Paul, avec le chapitre 12, débute cette partie pratique pour montrer les implications dans la vie de ceux qui ont été justifiés. Alors, quand Paul dit « Je vous exhorte donc », le « donc », un tout petit mot de quatre lettres en français qui englobe 11 chapitres. Votre « donc » que vous lisez là, n'oubliez jamais qu'il englobe tout ce que Paul a dit dans les 11 premiers chapitres. Donc, suite à cette exposition détaillée de la doctrine de l'Évangile, où après avoir été condamné, justifié, sanctifié, élu et réservé pour de grandes promesses, je vous exhorte donc. Dans les Écritures, le verbe exhorter, parakaleo, dans le Nouveau Testament grec, a beaucoup de sens, il a beaucoup de nuances. Parfois, il signifie consoler quelqu'un qui est en grande peine, vous savez. Et Dieu est le spécialiste. C'est le Dieu de toute consolation. Et parfois aussi, il y a un sentiment d'urgence dans le verbe « exhorter ». C'est comme « je vous encourage vivement ». Je mets tous mes efforts maintenant. Je mets toute l'intensité nécessaire pour que vous portiez attention à quelque chose. Et c'est le sens que nous avons ici. Il n'a pas le sens, tu vois, j'aimerais te conseiller quelque chose, mais fais-en ce que tu veux. Tu vois, tu es libre après tout. C'est des bons conseils que j'ai à te donner, une petite tape dans le dos, comme ça. Mais tu n'es pas obligé de m'écouter. Non, ce n'est pas du tout le sens. Ici, c'est vraiment, il y a un sens d'urgence. Je conseille vivement parce que je ne vois pas d'autre issue. Il n'y a aucune autre manière de voir les conséquences pratiques de l'Évangile de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un que de se donner entièrement à Dieu. Il n'y a rien de plus sensé que de se donner entièrement à Dieu une fois que nous avons reçu son salut. Ah, c'est un petit peu en contraste avec tous ceux qui conçoivent le salut comme un ticket dans la poche arrière qui leur dit « J'ai mon billet de TGV pour le ciel ». Mais c'est plus que ça. Bien sûr qu'avec le salut, on a l'entrée dans le ciel et l'espérance de la vie éternelle. Mais c'est beaucoup plus que cela. Frères et sœurs, il faut voir à quel point le recevoir l'Évangile est une mort à soi-même pour se donner entièrement à Dieu et vivre pour lui. Et franchement, après avoir reçu la vie éternelle, je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que Dieu me délivre de plus en plus chaque jour de moi-même. La plus grande libération que j'ai connue au départ, c'est bien sûr celle de la condamnation du péché, de la culpabilité. Et je me réjouis beaucoup. Merci Seigneur. Je suis sauvé, comme on a chanté souvent. Chant de victoire numéro 22. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous l'avez déjà chanté. Je sais au Québec, c'est très populaire ces chants. Et puis, voilà, c'est ma grande joie du départ, mais c'est loin d'être fini. Non, mais ma grande joie maintenant, c'est de voir la patience du Seigneur. Mais je vous assure qu'il est très patient avec moi parce que je suis une tête d'âne, je suis difficile, je suis dur. J'ai un caractère qui doit être brisé, quoi. Et puis le Seigneur est patient parce que je tombe souvent et je dois me relever. Et puis il me pardonne, il me relève, il me purifie. Combien je suis reconnaissant que le Seigneur m'a aimé tel que je suis pour me prendre comme j'étais, un pauvre, misérable pécheur perdu, mais je me réjouis encore davantage de savoir qu'il m'aime trop pour me laisser comme j'étais. Il ne va pas me laisser comme ça. Il me transforme. Mais ce n'est pas quelque chose qui est entièrement passif, tu vois. Allez, Seigneur, vas-y. Change-moi. C'est pas tout à fait comme ça. Il y a, tu vois, cet appel à tout donner au Seigneur, et c'est ce que je vois dans ce chapitre-là, avec un sentiment d'urgence, d'une grande importance. Mes yeux sont rivés sur le texte où je vois Paul en train de dire, et je le fais, cette exhortation urgente, par les compassions de Dieu. Depuis quand on peut quantifier la compassion? La compassion, t'en as ou t'en as pas, c'est quoi? Oui, tu peux dire, j'ai un petit peu de compassion, j'en ai plus, mais là, on parle de compassion calculable, les compassions de Dieu. Et ça veut dire quoi? Il y a quand même deux possibilités. Hein? Pour comprendre le pluriel de compassion aussi, il y a deux possibilités. L'apôtre Paul est en train de dire que la compassion de Dieu est immense. Et la façon d'exprimer le superlatif en grec, souvent, c'est de mettre les termes au pluriel, des concepts abstraits qu'on met au pluriel. Au lieu de dire une très grande compassion, on met au pluriel les compassions de Dieu. C'est possible que ce soit le sens de Paul, et probablement c'est inclus. Mais l'autre sens aussi possible, ce sont toutes les fois où Dieu montre de la compassion. Toutes les fois où même dans l'histoire de la rédemption, Dieu a montré qu'il était un Dieu compatissant. Et franchement, si je rapporte cette histoire de la rédemption à ma propre vie, depuis que je suis sauvé, je ne vois sans cesse que des manifestations de la compassion de Dieu cette année-là, ce mois-là, hier. Et je vois constamment Dieu comme ça, dans une compassion immense. Tu vois que pour Paul, c'est la motivation de son exhortation. Dieu est tellement compatissant. Alors, par ce Dieu compatissant, je vous exhorte de manière urgente, vivement, à répondre de la seule manière adéquate pour répondre à l'Évangile. Si tu es sauvé, tu es chrétien, tu dois apprendre à présenter ton corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Habituellement, quand tu offres quelque chose en sacrifice, c'est mort. Mais maintenant, c'est un sacrifice renouvelable, où chaque jour, on a le privilège de pouvoir donner notre vie au Seigneur. Et ce sacrifice-là, quand on donne cela au Seigneur, c'est vivant parce que Dieu travaille, parce que Dieu restaure, parce qu'il transforme, il œuvre dans la vie de ceux qui s'offrent ainsi. Et c'est un sacrifice saint parce qu'il est entièrement consacré à Dieu et séparé du mal. Et il est agréable. Qu'est-ce qu'on pourrait bien offrir à Dieu qui lui soit agréable? Techniquement, rien du tout. Rien du tout. Si c'était juste par nous-mêmes, qu'est-ce qui pourrait être agréable? Hein? Qu'est-ce qui pourrait satisfaire Dieu dans toute sa sainteté? Heureusement qu'il y a Jésus-Christ. Depuis quelques mois, je fais une petite parenthèse ici. Depuis quelques mois, je porte beaucoup attention à la préposition « par ». Et en particulier quand c'est « par Jésus-Christ ». Parce que chaque fois que je vois ce petit mot de trois lettres, il me dit que sans lui, rien ne serait possible entre l'homme pécheur et Dieu. C'est lui le médiateur. Par, souligne l'œuvre de médiation de Christ. Sans lui, il n'y a rien de possible. Mais par lui, on peut offrir quelque chose qui soit agréable à Dieu. Parce qu'il nous a sauvés. Il a payé le prix. Si je débordais, je m'en irais tout de suite dans les Corinthiens pour rappeler ce beau passage qui dit « Vos corps ne sont pas à vous. Arrêtons d'être des voleurs. On vole Dieu parce que notre vie lui appartient. Il a payé un prix cher pour qu'on lui appartienne. Donc, il ne faut pas voler Dieu. Notre vie lui appartient. On doit plutôt donner en sacrifice à Dieu. » Et cela, lui, est agréable. Et pour Paul, il ajoute ceci en lien avec ce sacrifice qu'on offre à Dieu. Ce qui est votre service intelligente dans la ville d'Arby. Dans la Bible de Second, ce qui est votre culte raisonnable. Et vous savez, c'est quoi le terme grec qui est utilisé ici? Logikos, logique. C'est juste logique. C'est le gros bon sens. Vous dites ça, le gros bon sens en France? Ah bon, c'est très québécois alors. Chez nous, on appelle ça même, on abrège tout ça, puis on dit, il faut avoir un petit peu de GBS parfois dans notre vie. Du gros bon sens. C'est le gros bon sens. C'est juste normal. C'est juste logique. Hein? Prenons les termes ici. C'est juste intelligent. Et si on fait le contraire, c'est quoi, stupide? Pourquoi on n'oserait pas dire les vraies choses? Hein? De ne pas donner son corps à Dieu, ce serait très stupide. Mais c'est intelligent. C'est logique, comme le logikos semble le suggérer fortement. En tout cas, peut-être qu'on fait un anachronisme, mais quoi qu'il en soit, ça a du sens de trouver que c'est raisonnable, comme dit la version seconde. Et en fait, il n'y a rien de plus raisonnable que ça. C'est ce qu'on doit faire. Et l'appel à offrir tout à Dieu comme ça, non seulement est logique, intelligent, raisonnable, c'est ce qu'on doit parce qu'on lui appartient. Mais pour y arriver, il faut accepter quelque part de payer le prix d'une totale consécration au Seigneur. Il faut qu'on soit prêt à tout lui donner. Et c'est là parfois que le combat commence. Hein? Et c'est là parfois qu'on a des petites luttes, là, de savoir est-ce que, oui, voilà, je veux bien, mais l'apôtre Paul, il ajoute ceci au verset 2. Et, parce que c'est pas fini, on rajoute. « Et ne vous conformez pas à ce siècle. » Le siècle ici est la façon de penser dans un monde hostile à Dieu. Le siècle ici est tout ce que contient ce monde de pécheurs qui ne veut rien savoir de Dieu en fait. C'est la façon de voir et de vivre du monde ou des gens qui sont sans Dieu, qui n'ont pas la connaissance de Dieu. De se conformer, c'est d'arriver à la même image. Quand tu te conformes, tu arrives à la même image. Et pour faire un contraste avec cela, on a tout de suite appris, mais soyez transformés. Au lieu d'être conformé, on est transformé. Au lieu d'être conformé à la même image, tu es transformé en une autre image. Une bien meilleure image. À l'image de quelqu'un, notre Seigneur. On n'est pas conformé à ce siècle. Qui n'a pas pensé à Daniel et à ses amis en lisant ce verset? Tu sais que c'est le roi de Nébuchadnezzar de Babylone, il voulait faire. Alors, vous leur donnez la nourriture, vous leur donnez toute la culture, vous les instruisez. Il faut les conformer à la culture babylonienne idolâtre. Ah, ils n'ont pas voulu. Hein? Daniel ne voulait pas se conformer comme ça à ce siècle. Mais c'est ce que le monde veut faire. Il veut nous amener à lui ressembler, à être comme lui. Mais ce n'est pas ce qu'on doit faire. Mais, et le mais est toujours fort en contraste, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou de l'entendement. Et en fait, l'entendement et l'intelligence dont il parle ici, c'est la manière de voir spirituellement. Maintenant, on a une compréhension spirituelle parce que nous avons l'Esprit Saint en nous. Alors là, ça commence à être encourageant parce que ce ne sera pas le fruit d'un effort personnel de la chair pour dire « Je vais essayer d'être à l'image de Jésus. Je vais faire tous les efforts possibles. » Franchement, ça ne prendra pas tellement d'heures avant qu'on se rende compte que « Ok, c'est décourageant finalement. » Mais on a tout ce qu'il faut. On a la nouvelle nature qu'on a reçue en nous qui nous donne la possibilité d'être transformés comme il est dit ici. Mais avez-vous remarqué dans quelle direction ça va? Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Ça commence par en dedans. Ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Est-ce qu'on peut changer ça, le dedans? On change le dehors assez bien quand même. Hein? On se débrouille pas mal avec ça. Hein? Avec l'esthétique et tout, la coupe de cheveux. Mais ça, c'est rien! C'est rien du tout! Il faut que pour qu'il y ait une transformation visible, c'est-à-dire dans le comportement, l'attitude et tout ce que nous sommes, que ça parte depuis l'intérieur. Et parce qu'on a l'Esprit en nous, il est possible d'être renouvelé. Des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous connaissez ce texte de 2 Corinthiens 5, verset 17. Tout est nouveau. Mais maintenant, vous savez qu'on a des portes d'entrée vers l'intérieur de nous-mêmes. Elles sont où, ces portes d'entrée? Les oreilles, les yeux. Ce sont de grandes portes d'entrée, ce qu'on écoute, ce qu'on entend et ce qu'on regarde. Ça, c'est des portes d'entrée pour que les choses rentrent à l'intérieur de nous et façonnent le cœur, la façon de voir les choses, la façon de penser. C'est pour ça qu'on dit à des croyants et en particulier à des jeunes, hein, faites attention à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous tolérez, à ce que vous laissez entrer, parce que ça va vous façonner, ça va vous transformer, mais pas dans le bon sens si ce n'est pas bien ce qui entre. C'est pour ça qu'on regarde et on lit avec les yeux la parole de Dieu et qu'on écoute la prédication parce qu'on veut que notre intérieur soit nourri par les bonnes choses de manière à ce qu'il s'opère dans notre cœur une transformation pour qu'à l'extérieur, par la suite, les gens voient Christ en nous. C'est ça qu'on veut en bout de ligne. Je ne sais pas si un jour, des gens qui me connaissent vont dire « Ah, tu sais, lui, plus il avance dans la vie, plus il ressemble à Jésus. » J'ai des gros doutes que ça va arriver. Pas parce que ma vie, elle n'est pas bien. Hein? Enfin, je connais ma vie, puis le Seigneur aussi, puis c'est pas toujours bien, croyez-moi. Mais le point est le suivant, c'est que s'il y a quelqu'un pour qui c'est important de voir cette transformation, c'est d'abord notre Dieu. C'est d'abord notre Dieu. C'est lui qui doit voir son Fils en nous. C'est lui qui veut voir nos vies transformées. Même si le monde ne nous connaît pas, et l'apôtre Paul l'a dit déjà aussi, même si le monde ne nous connaît pas, en bout de ligne, c'est pas le plus important. J'aimerais ça qu'on dise de moi un jour, comme on a dit des apôtres, dans un contexte de persécution, on les reconnaît pour avoir été avec Jésus. Hein? J'espère que ce soit comme ça, mais je ne m'attends pas à ce que le monde reconnaisse là. Je m'attends qu'ils rient moi plutôt, mais ils tapent dessus. C'est plutôt à ça, ou qu'ils me rejettent, ou du moins que ça leur passe. Bon, j'allais dire quelque chose de très québécois. Vaincu par-dessus la tête. ça veut dire que ça part très haut au-dessus. Tu vois? Mais c'est important pour Dieu et le monde spirituel. Le monde spirituel jette un regard sur l'Église. Autant le bon monde spirituel, les bons anges, que les anges déchus regardent l'Église. Et si nous avons un message à donner au monde spirituel, c'est celui de transformation où Christ est maître en nous. S'il vous plaît, il faut qu'on rende témoignage de cette façon. C'est la seule façon de montrer qu'on est vraiment des croyants, mais ça va passer par des transformations. Et habituellement, ça fait mal. Une transformation comme celle-là, ça fait mal. C'est depuis l'intérieur, c'est le cœur, les pensées, les affections, tout ça, ça change. Si vous avez jamais lu le petit livre de Georges André, « Avançons jusqu'à lui », s'il vous plaît, lisez-le ou relisez-le. Quel bon petit livre qui parle à des jeunes croyants du travail qui se fait à l'intérieur du cœur pour façonner à l'image de Dieu. Ça, c'est un livre qui m'a impacté. Je ne sais pas si on dit ça, mais beaucoup au début de ma vie chrétienne. Beaucoup. Vous savez que ce verbe « transformer-là », en grec, il est un petit peu spécial. Il s'appelle « métamorphéo ». Ça vous dit quelque chose en français, ça? Métamorphéo, métamorphose. Ça, c'est quand tu changes complètement de forme. La métamorphose. Ce verbe-là est utilisé 4 fois dans tout le Nouveau Testament. 4 fois. 2 fois dans un contexte semblable dans les Évangiles et 1 fois ici. Et l'autre fois, dans les Épîtres de Paul, tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 3. Et puis vous gardez la place où nous allons revenir. À quelle heure je suis supposé de finir? OK, parce que quand je suis parti, ça peut dégénérer. Dans le sens que je peux passer complètement outre le temps, puis vous me ferez des signes, quelqu'un vous dit, tu me fais, arrête, là, c'est bon. Il ne faut pas que je manque l'avion ce soir. Ça, je devrais m'en tirer, je pense. Regardez le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Or, nous tous, contemplant la face découverte, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, même verbe, en la même image, celle du Seigneur, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Ce verset-là est en train de nous dire que quand on contemple le Seigneur, parce qu'on a eu un voile qui a été retiré de nos yeux, hein, la face découverte, le voile a été enlevé, maintenant on voit la gloire du Seigneur, on voit tel qu'il est. Quand on contemple le Seigneur dans l'Écriture, ça a un impact sur nous qui nous transforme toujours un peu plus en la même image. Mais pourquoi de gloire en gloire? Parce qu'on comprend bien que ça signifie d'étape en étape ou de progrès en progrès. Mais c'est simplement en gloire, parce que plus ta vie est transformée, plus la gloire du Seigneur paraît dans ta vie. C'est pour cela que Paul choisit le mot « de gloire en gloire ». On voit un petit peu plus la gloire du Seigneur, de plus en plus. Tournez avec moi dans Matthieu 17. Et nous allons lire au verset 1. Matthieu 17, verset 1. Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est quoi le verbe principal ici? Transfiguré, c'est exactement métamorphéo. Le même verbe traduit par Paul dans les deux passages qu'on a vus, par transformer. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est que dans la transfiguration, Jésus est transformé en ce sens que sa gloire maintenant paraît. Une gloire qui était voilée derrière son humanité méprisable d'un simple juif de Nazareth en Galilée. Là maintenant, ce n'est plus ce simple juif, comme dit Ésaïe, qui n'avait rien pour attirer les regards. Maintenant, c'est le Fils de Dieu dans sa gloire. Une chance que ça n'a pas été trop long. Hein? Il fallait tout de suite éteindre tout ça. Là. Il fallait fermer le bouton de la gloire et puis on met ça à off. Quoi. Parce qu'autrement, ben, il serait resté mort par terre. C'était trop grand pour eux. Ils sont tombés le visage contre terre. Imaginez. Comment peut-on décrire une telle gloire? Eh bien, on prend ce qui brille le plus fort à l'époque. Un soleil. La lumière. C'est une description qui utilise les termes connus à l'époque pour parler d'une gloire qui est tellement éclatante que... Wow! C'est quoi ça? Vous voyez le point? Là, je comprends un peu mieux pourquoi Paul dit d'être transformé de gloire en gloire. Je pense qu'on ne diffuse pas beaucoup de gloire quand même, hein, dans un sens. Mais ça, c'est à vue humaine. Mais quand on est des croyants avec un caractère transformé, cette gloire, Dieu la voit. Le monde spirituel la voit. Peut-être même que des gens du monde peuvent la voir. J'ai aucun doute de toute façon qu'ils vont bien se rendre compte qu'on a des vies qui sont... Oui, bien rangé, si je peux dire. Ce serait le minimum. Mais il devrait voir beaucoup plus. Mais c'est pas grave s'il ne confirme pas. Parce que l'important, c'est que Dieu, dans notre cœur, il nous donne cette paix, cette assurance qu'on reflète de plus en plus le Seigneur Jésus. Et bien, si on revient à Romains 12, quand on est ainsi transformé de plus en plus à l'image du Seigneur depuis l'intérieur... Le résultat est qu'on arrive à discerner les choses. Et là, tenez-vous bien parce qu'on s'en va vraiment vers le concret. Mais c'est hyper important qu'on mette l'accent sur ce départ-là de Romains 12 parce que toute la partie pratique de Romains, hein, de 12 à 16, elle repose sur ce seul principe de s'offrir entièrement à Dieu en sacrifice afin d'être transformé depuis l'intérieur. Tout repose là-dessus. Parce que c'est à partir de ce moment-là, quand on donne constamment notre cœur au Seigneur, qu'on commence à discerner sa volonté. C'est souvent qu'on dit ça, n'est-ce pas? « Hey, j'aimerais connaître la volonté de Dieu pour moi. » N'est-ce pas? On dit souvent ça. En fait, j'espère que vous le souhaitez vraiment. Hein? Ça va. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Mais quand on dit cela, en général, on parle à... On pense à qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, tu vois, comme ministère, quels sont mes dons spirituels. Tu vois, on pense à de grandes choses comme celle-là. Mais la volonté de Dieu, elle se révèle dans l'Écriture à tous ceux qui veulent laisser leur cœur être transformé par la parole de Dieu pour simplement obéir à Christ, à mettre sa parole en pratique. Et c'est incroyable le discernement qu'il nous donne. Il nous donne de plus en plus de discernement pour voir les choses de façon très claire et nette par la suite. Discerner la volonté de Dieu. Et cette volonté-là, comme le dit bien la traduction Darby, là, c'est beaucoup mieux que second ici. Elle est bonne et agréable et parfaite. C'est de la volonté de Dieu qu'on parle ici. Dans le second, on dirait que c'est comme deux ou trois choses séparées. Hein? La volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, comme si c'était... Quatre choses, en fait. Mais c'est toujours la volonté de Dieu qui est qualifiée par ses adjectifs bonne, parce qu'elle est utile et bénéfique, agréable, parce qu'elle rencontre les exigences et les attentes de Dieu. Elle est parfaite. Est-ce qu'on doit décrire parfaite? Elle atteint le niveau d'excellence que Dieu attend. C'est sa volonté. Elle ne peut pas être décrite autrement. Et puis voilà, on la découvre dans nos vies. Car, verset 3, car, que ce mot est important. Une petite conjonction de trois lettres qui, en général, est explicative. Elle donne les explications de tout ce qu'on vient de dire. Alors, puisque nous sommes exhortés à se donner entièrement à Dieu ainsi, qui transformera notre intelligence, hein, depuis l'intérieur, nos vies, eh bien, cela va nous amener à discerner la volonté de Dieu, parce que Dieu, dans sa volonté, a un but pour chacune de nos vies dans une vision collective. C'est vrai que Dieu nous aime chacun individuellement. C'est vrai que Dieu nous a fait des dons spirituels à chacun de nous. Je ne demanderai pas de lever la main ceux qui n'ont pas reçu de dons, parce que ce sera inutile. Tous, on a reçu au moins un don. Certains, plusieurs même. On le voit chez Paul, hein? C'est assez évident. Mais on a tous reçu un don spirituel, au moins un, pour bâtir la ressemblance à Christ en collectivité, dans un concept de corps spirituel. On est tous des croyants individuels, c'est vrai, mais membres d'un même corps. Ce qui fait que finalement, on n'est pas tout seul. Et quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite pour chacun de nous dans le contexte de notre place dans le corps vivant du Seigneur? Eh bien, l'apôtre Paul, voici ce qu'il nous dit à ce sujet. Par la grâce qui m'a été donnée. De quelle grâce il parle? Pas celle qui l'a amené au salut au départ. Ici, la grâce, c'est le don qu'il a d'instruire l'Église. C'est son mandat apostolique d'enseigner la parole de Dieu. Alors, par ce don et ce mandat apostolique qu'il a reçu, il dit à chacun de ceux qui sont parmi les Romains à l'époque et parmi nous aujourd'hui, et là, vous allez voir qu'il y a toute une série de mots qui incluent le concept de pensée. Pensée. Dans le Darby, plus que dans n'importe quelle autre version française, d'ailleurs, le mot « penser » revient très souvent. Je le lis rapidement, c'est au verset 3. « Je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous, et ça commence là, de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle, c'est-à-dire la pensée qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées. » OK. C'est toute une répétition, ça. Puis en fait, il manque un verbe penser, parce que dans le grec, il y a quatre fois le verbe penser. Mais Darby a simplement mis celle qu'il convient d'avoir. Mais littéralement, le texte dit, « Je dis à chacun de vous de ne pas penser au-delà de ce qu'il faut penser, mais de penser de manière raisonnable comme il faut penser. » là, c'est peut-être trop à 15h50 de dire une phrase comme celle-là. Après avoir mangé un dimanche après-midi qui fait chaud, après déjà presque je ne sais pas combien de minutes de prédication, j'en conviens, c'est pas facile. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce passage? Il veut dire, faites attention pour pas être, tu sais, les gens Moïse et Jérémie, parfois, « Oh, oh non, moi, je ne peux pas faire ça. Oh non, moi, je ne suis pas capable. Non, non, moi, je ne peux pas. » Tu sais, « Oh, quelle belle humilité. Oh, il ne peut rien faire. Oh, qu'il est là. »
Non, non, je suis désolé. Hein? C'est pas de l'humilité.
Ça, c'est de la fausse humilité. Mais à l'opposé de ça, c'est « Ah oh, non, mais moi, je suis capable. » Attention, moi, je sais tout faire. Hein? Et d'ailleurs, si vous voulez que quelque chose soit bien fait, vous m'en parlez d'abord.
Là, ça va être parfait.
Entre les deux attitudes, orgueilleuse et pseudo-humilité, il y a la juste pensée. Celle où, par moi-même, je ne suis rien, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et parce que Dieu m'a fait des dons spirituels, je suis appelé à les mettre à son service pour l'édification de qui, moi? Non, l'Église. L'Église. Voilà de ce corps qui doit être construit. Ce que Paul est en train de dire, c'est que chacun des croyants ne doit pas penser hautement de lui-même dans l'orgueil et s'imaginer qu'il est ceci, il est cela. Non, c'est pas ça qui est important. De toute façon, disons que tu veux être le calife, là, à la place du calife, là. Disons que tu veux être Isno Good, là, puis tu te places au-dessus de tout le monde. Si vous comprenez la référence, mais c'est pas grave, sinon je suis désolé. Disons que tu veux être l'orgueilleux et que tu réussis à t'établir comme la personne qu'on écoute dans l'Église. Ben, écoute, bravo, t'as ta récompense, et quand tu arriveras au tribunal de Christ, tout va brûler. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est simplement d'avoir la juste pensée de nous-mêmes. Et cette pensée de nous-mêmes n'est pas celle qu'on va se fabriquer nous-mêmes, soit par orgueil ou fausse humilité, mais celle qu'on va découvrir en discernant la volonté de Dieu, qui sera bonne, agréable et parfaite. Et si chacun trouvait et découvrait cette volonté pour lui, sa place dans le corps, vous imaginez ce que l'Église aurait l'air? Oh, c'est magnifique, remarquable, ce serait tellement différent. Mais c'est plus de l'hommerie qu'on voit souvent dans les églises, tu vois, lui qui veut être entendu, puis celui-là, celle-là qui tire sur, j'allais dire sur la couverte. Donne-moi mon bout. Alors, quand on regarde ce que Paul dit, c'est si vous pouviez simplement penser de manière à avoir de saines pensées. Et littéralement, ce texte-là veut dire « penser de la bonne façon », juste la manière qu'il convient de penser. Savez-vous ce que ça veut dire « phronéo » ou « la pensée » dans le concept grec ou dans les lettres de Paul? C'est une manière d'être, c'est une attitude. Mais cette attitude, elle est façonnée par ma façon de voir les choses, par ma vision de la vie, par ma vision de l'Écriture, ma vision de l'Église, ma vision de la volonté de Dieu. C'est pour ça que Paul il dit, il faut absolument que vous donniez tout entièrement à Dieu pour discerner la volonté chacun de vous. Et ensuite, vous allez contribuer à une vraie édification de l'Église. C'est puissant ce que Paul est en train de dire ici. Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Une mesure de foi. Une quantité de foi. Oh! La foi, c'est quantifiable. Mais de quoi il parle? C'est, en fait, c'est pas tellement quantifiable, c'est pas le point, mais la mesure de foi est une expression qui veut dire que Dieu a donné à chacun des dons selon sa propre volonté, selon ses plans parfaits. Dieu ne s'est jamais trompé en donnant ses dons spirituels par Christ, hein? Parce que, comme il est dit dans les Éphésiens, c'est pourquoi il est monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes, mais ces dons sont communiqués par Christ à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Et donc là, vous pouvez être certain de quelque chose. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, toute la Trinité est impliquée dans le don spirituel que vous avez reçu. C'est sûr que ça va fonctionner. Sûr, sûr, sûr. Mais pourquoi l'Église, elle a tant de peine à croître, à s'édifier, à grandir, à s'affermir spirituellement. C'est le point de départ qui est le problème. Ce n'est pas les ressources que Dieu donne. Le point de départ, c'est de tout donner à Dieu, de ne pas chercher ce que moi je veux, mais ce que Dieu veut. Et ça commence par « Je donne ma vie au Seigneur ». Il y a un des passages les plus beaux dans toute l'Écriture au sujet de ce que Dieu veut pour l'Église est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. On est là-dedans en Suisse romande, hein? On passe des coachings, on a 6 groupes qui étudient cela. Et le verset 3 dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sainteté ou votre sanctification ». Et ensuite, je vous mets au défi, si vous voulez faire l'exercice, trouvez les 3 manières dont s'exprime la sanctification que Dieu veut. Et si chacun de nous, on écoutait 1 Thessaloniciens 4 d'une façon toute particulière et qu'on réussissait à atteindre ce standard de pureté dans le domaine sexuel en particulier, les choses changeraient. Ça, c'est un des textes les plus merveilleux, je trouve, parce qu'il parle des vraies choses. Mais les versions de la Bible ont eu de la peine avec, et puis ils n'ont pas toujours, tu vois, avec pudeur, rendu exactement le texte comme il devrait être rendu. Mais faites le défi de comprendre 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Et vous allez voir que c'est impressionnant. Soyez attentifs à tous les détails. Et je reviens à ce texte ici. Pour discerner la volonté de Dieu, on se donne entier au Seigneur. Et on reçoit de lui la juste façon de voir les choses. Et là, nous allons être en mesure de découvrir que nous sommes membres d'un seul corps, que nous avons reçu des dons et nous allons être appelés à les mettre en pratique dans le corps, selon ce qu'on doit être appelé à faire. Tu vois, si tu as reçu le don d'évangéliste, ben évangélise. Et tu vas me dire, mais comment je fais pour savoir ça? Tu donnes ton cœur au Seigneur, tu lui parles, tu lis sa parole, tu le laisses façonner ton cœur et tu saisis les opportunités qui sont devant toi. Dieu va placer devant chacun de nous les opportunités qui vont nous permettre de développer nos dons spirituels. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas parce que ce n'est pas ce qu'on veut, très souvent. C'est pour ça, je pense, que beaucoup de chrétiens qui, j'allais dire qui pataugent dans la mare, mais tu vois, dans la boue, ils ne savent pas trop où aller. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà, tu vois, « Ah, moi, c'est ce que je voudrais faire. Moi, j'aimerais faire ça. » Et puis, ça arrive parfois que ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Et pourtant, ils ont le don, il est là. Et puis, ils passent à côté. Vous savez qu'on discerne, entre autres, nos dons spirituels parce qu'on saisit les opportunités que Dieu met devant nous. Dieu fait arriver des choses qu'on ne gère pas, que c'est lui qui gère. Moi, tout ce que je veux voir, c'est ce que Dieu a préparé d'avance. Et puis, je lui demande, donne-moi juste ce discernement pour comprendre, Seigneur, ce que tu veux. Mais moi, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Mais je manque de courage, je manque de force, je suis paresseux parfois. Je sais tout ça, mais j'en parle au Seigneur. Et j'en parle, et plus j'en parle au Seigneur, plus les choses deviennent claires. C'est pour ça que tu regardes, vois la corrélation entre le don qui a été donné et l'exercice du don. Si Dieu t'a donné le don de prophétie, ben, prophétise. Bon, c'est vrai qu'il faudrait déjà définir c'est quoi la prophétie, hein? Parce qu'il y a au moins, il me semble, c'est 5 niveaux de dons prophétiques dans les Écritures. Il y en a qui n'existent même plus. Celui qui est relié aux apôtres, il n'existe plus ce don-là. C'était celui de la communication, de la révélation progressive de Dieu dans un contexte canonique, c'est-à-dire ce qui allait être notre Bible. Ce don prophétique, il n'existe plus. La Bible est complète, c'est terminé, le canon est fermé. Mais par contre, il existe un don de prophétie qui consiste à encourager, consoler, exhorter les autres. Et des hommes et des femmes ont ce don. Des hommes et des femmes peuvent avoir ce don. Ce n'est pas dans le contexte de la prédication d'une église locale. Ça, c'est autre chose, c'est l'enseignement. Mais quand on est dans la prophétie pour encourager, eh bien, prophétise, vas-y. Tu as ce don-là, prophétise. Et si tu as le don de prophétiser, encourager, tu sais quoi? Dieu va mettre des occasions pour que tu le fasses. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour saisir les opportunités. Le don de prophétie doit être fait en proportion de la foi, littéralement selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire tu encourages les autres à partir de ce que l'Écriture enseigne, pas ce que la philosophie du monde dit, ce que l'Écriture enseigne. Donc, tous les chrétiens doivent connaître leur Bible. Le service, eh bien, sert. L'enseignement enseigne. Exhorte, exhorte. Tu vois, si tu distribues, probablement ici on parle d'être généreux, de donner de l'argent ou de son temps ou de ses biens, eh bien, fais-le en toute simplicité. Autrement dit, ton cœur est simple, il n'est pas double. Tu ne le fais pas avec des mauvaises motivations. Ben, je vais donner ça, mais j'espère que je vais recevoir le double. Hein, non? C'est pas un investissement là, pour faire des sous. Hein? Fais-le en simplicité. Tu n'as pas un cœur double. Tu le fais en simplicité. Tu donnes vraiment généreusement et tu n'attends pas de retour. Celui qui est à la tête, celui qui préside, celui qui dirige, qu'il le fasse soigneusement. Il conduit les autres. Il montre un modèle, qu'il le fasse avec beaucoup d'attention, etc. Après le verset 8, on dirait qu'il y a tout à coup, d'ailleurs, il y a même un paragraphe dans la Darby. Ce qui est assez étonnant, parce que Darby, il met moins de paragraphes, parce que c'est une question d'interprétation, mais là, il y a quand même un paragraphe, et tout à coup, sans conjonction, sans préposition, qui fait le lien entre les idées du verset 9 et 8, il démarre tout de suite, là, au quart de tour. Vroom! Que l'amour soit sans hypocrisie. OK? Moi, des fois, je dis ça, je dis, quelle mouche l'a piqué pour tout de suite? Où il va avec tout ça? Mais en fait, j'élimine le paragraphe, puis je me dis, il est tout... En fait, il est tout simplement en train de dire, soyez vrai dans vos motivations. Soyez vrai dans la poursuite de ce que vous voulez faire pour voir vraiment Dieu à l'œuvre. Un amour sans hypocrisie. N'ayez pas un agenda caché. Bon, ça c'est peut-être trop québécois, mais je ne sais pas si vous comprenez le point. T'sais, un agenda caché, c'est quand tu as déjà un programme. Là. Tu fais quelque chose, mais c'est dans le but de d'autres choses, et ça c'est caché un peu, mais tu magouilles pour que ça arrive. Sans hypocrisie. Tu vas voir en horreur le mal, et c'est toute forme de mal. Ce sont des principes généraux ici. Tu te tiens ferme au bien. Tu sais, c'est comme, je déteste le mal et je me sauve, mais le bien, lui, je l'attrape et je le serre contre ma poitrine et je ne le laisse pas partir. Viens essayer de m'enlever le bien pour voir. Viens essayer. Tu ne réussiras pas. Ah non, je le tiens trop fort. C'est dans ce sens-là que Paul est en train de dire cela. Dans l'amour fraternel, plein d'affection les uns pour les autres. Vous savez que l'amour dans la Bible, a priori, ce n'est pas la capacité d'entrer dans la bulle de quelqu'un. Tu sais que, bon, les chrétiens, on a tendance, des fois, on se rencontre et puis on se prend tout. Ici, je vois que la mise, hein, c'est assez populaire. Puis chez nous, au Québec, on... ça serait difficile avec certaines personnes. Il y a peut-être même que certains feraient hey, qu'est-ce que tu fais? Attends, on se serre la main, mais quand même, tu gardes la distance. Hein? Puis, on n'a pas tous cette proximité. Et l'amour de la Bible, dans la Bible, c'est pas qu'on soit forcément en mesure de tous se faire des hugs, hein? De se prendre dans les bras, puis de serrer. Ça ne fonctionne pas nécessairement avec tout le monde. Et c'est pas ce que l'amour biblique nous dicte. L'amour biblique, c'est qu'on est prêt à faire les choses de manière engagée pour les autres. Mais il ne doit pas y avoir un engagement froid. Ça prend l'affection profonde. Moi, j'affectionne des gens sans forcément que je les prenne dans mes bras, tu vois. Mais je les affectionne sincèrement. Et puis, voilà l'amour biblique, c'est ça. C'est un amour dévoué, rempli d'engagement. Vous savez que même les pécheurs sont capables d'aimer comme ça. Les prédicateurs qui disent « L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. » Non, non. C'est pas juste ça. Parce que les hommes, dans la version seconde, qui ont préféré les ténèbres à la lumière, dans l'Évangile selon Jean, c'est agapao qui est là. Ils ont aimé avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'engagement, les ténèbres. C'est horrible. Mais c'est comme ça qu'on est dans le monde. On aime le monde des ténèbres quand on est dans les ténèbres. Eh bien, quand on est croyant, on aime avec consécration, dévouement, engagement nos frères et sœurs avec de l'affection. On se fait même un honneur de montrer l'exemple. Regardez cette phrase dans le verset 10. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Et ce texte-là pourrait avoir le sens de « je me fais un honneur de donner l'exemple, de montrer l'exemple aux autres ». Et c'est un encouragement pour qu'on aille de l'avant. Il ne faut pas être paresseux, il faut être fervent en esprit, c'est rempli de zèle, bouillonnant pour le Seigneur afin de le servir. Je me demande, vraiment, c'est une réflexion humaine, hein, c'est pas très spirituel ce que je dis, mais disons qu'on regardait simplement ce texte-là d'une façon humaine. Vous ne trouvez pas que c'est une vision utopique? Franchement, c'est, je veux dire, qui peut atteindre cet idéal? Ben, chacun d'entre nous. Oui, dans une mesure. Oui, on a des choses à apprendre. Oui, il va falloir qu'on soit changé, transformé, c'est vrai. Il y a du travail à faire. Moi, je pense que le Seigneur est à plein temps sur mon cas. Mais il y a beaucoup de travail à faire avec moi. Mais c'est vrai que c'est comme ça pour chacun de nous. Le Seigneur a des choses à travailler, à faire. Mais la vision n'est pas utopique. Elle est réelle. Elle est possible. Parce que Dieu travaille dans le contexte d'une humanité pécheresse. C'est une phrase clé que je n'ai pas inventée. Mais j'arrête pas de la répéter. Je l'ai lu dans un livre il y a plusieurs années, ça fait longtemps, et ça n'avait pas tout à fait rapport avec ça. C'était un livre sur les guerres dans l'Ancien Testament. Un auteur, je pense qu'il était de Regent College au Canada, et qui essayait dans une thèse d'expliquer l'éthique derrière la guerre. Comment on peut expliquer ça, la guerre? Pourquoi il y a de la guerre et surtout, pourquoi Dieu dit à Israël « tue tout le monde ». Ça choque hein, quand on lit ça. On se demande, mais pourquoi? Puis des choses qu'on a beaucoup de peine à comprendre. Mais le Seigneur, tu vois, il a une toute autre vision des choses et il travaille constamment dans le contexte d'une humanité pécheresse. Ça explique tellement de choses. Il travaille dans ce contexte-là dans nos vies. Nous sommes des pécheurs achetés, et étant des pécheurs achetés, nous sommes des saints maintenant. Et on est appelés des saints, constamment, parce que c'est ce que Dieu voit en nous. Mais quel travail il a à faire dans nos vies, et il va le faire, parce que Dieu travaille dans le contexte d'une humanité pécheresse. Et Dieu travaille avec des hommes et des femmes comme nous, faibles, mais avec lesquels il peut faire tellement de grandes choses. Frères et sœurs, nous sommes le corps de Christ. Il est la tête. Et nous avons besoin de lui pour sa direction, pour trouver et découvrir les dons qu'il nous a faits, pour qu'on puisse contribuer, chacun de nous, à l'édification de son corps pour sa plus grande gloire. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle nous secoue. Et Seigneur, on te prie vraiment que tu nous aides à, de manière pratique, à mettre ce qu'on a entendu aujourd'hui en pratique dans nos vies, mais voilà par la prière, la lecture, l'obéissance, le renoncement à nous-mêmes, que l'on puisse avoir le réflexe, Seigneur, de penser à déposer devant toi tous nos objectifs de vie, toute notre vision, tout ce qu'on accepte, tout ce qu'on n'accepte pas. Enfin, Seigneur, apprends-nous à dépendre entièrement de toi. Ce que nous réclamons, Seigneur, c'est ta Seigneurie. C'est que tu sois, Seigneur, dans nos vies et que nos vies changent et que nos vies deviennent aussi une contribution à l'édification de ton corps, l'Église. Alors, nous te prions au nom du Seigneur Jésus de vraiment nous transformer, Seigneur, pour ta gloire. Amen.
Amen.
Merci.
Merci.